Bonjour à vous tous qui suivez ces magazines. La conférence de presse organisée par l'International Rescue Committee IRC le 18 mai dernier s'est tenue à l'hôtel Horizon de Bukavu. Étaient présents à la rencontre des ministres provinciaux, dont celui du plan qui représentait les gouverneurs du Sud Kivu empêchés et celui de l'éducation nationale. Étaient aussi de la partie des représentants de l'USAID, des partenaires locaux et internationaux de l'USAID, des bénéficiaires de ce programme de rattrapage scolaire et bien entendu des professionnels des médias. Le modérateur du jour, le ministre provincial de l'Éducation, M. Ladislas Muganza Wakandwa, a d'abord brièvement présenté le programme. Ce programme, a-t-il dit, cible les enfants de 9 à 15 ans qui ont dépassé l'âge de fréquenter l'école primaire. L'objectif étant de permettre aux millions d'enfants et adolescents congolais en dehors de l'école d'accéder à l'éducation. En 6 ans d'exécution, au Sud Kivu, c'est plus de 5000 enfants et adolescents qui ont bénéficié de ces programmes. Il a aussi souligné à l'intention de la presse que c'est main dans la main que les organisations locales et internationales, la Division des affaires sociales et l'USAID appuient ces programmes de cours de rattrapage scolaire. Et pour avoir une idée de comment cela se passe sur le terrain, le ministre provincial de l'Éducation, Ladislas Muganza Wakandwa, a convié l'Assemblée à suivre un reportage réalisé au Centre Nyota, un des centres de rattrapage scolaire basé à Bukavu et qui encadre des enfants et adolescents congolais en dehors de l'école. Suivons.
Nous sommes au Centre Nyota. C'est l'heure de la récréation. Des enfants et adolescents, filles et garçons, sortent de salle de classe. Parmi eux, une jeune fille de 15 ans, Chanceline Kabika. Elle est en niveau 3 du programme des rattrapages scolaires. Dans un cursus normal, c'est l'équivalent de la 6e année primaire.
J'ai tombé malade à l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans. Alors, le docteur m'a dit, avant de continuer les études, il faut que j'arrête d'abord. Ma grand-mère m'avait amenée ici parce que je ne connais pas mon père bien. Elle nous a laissés depuis que j'ai 10 ans. Maman m'avait occupée et puis parce que mon père n'habite pas ici, il habite au village, il m'a amenée ici pour notre famille, la fille de mon oncle.
Vous l'avez compris, Chanceline était l'une des millions d'enfants et adolescents congolais en dehors de l'école. Depuis qu'elle a intégré le programme de rattrapage scolaire, en seulement 3 ans, elle a fait de progrès énormes.
L'heure que j'entrais ici, après 6 mois, j'ai commencé à comprendre comment lire et comment écrire. Jusqu'à maintenant, je me débrouille bien. Je vois qu'on m'occupe ici bien. Et on me prend vraiment bien ici. Et pour ça, je suis vraiment très reconnaissante. Je veux seulement que il continue comme ça. Il aide les autres comme m'a aidé moi. Lorsque je termine ici, je prie le bon Dieu qu'il me donne une vraiment encore que je continue. Tout ce que je préfère, moi, à l'école secondaire, faire la littéraire.
Les élèves bénéficiaires de ce programme sont en majorité issus de familles défavorisées. Christian Kabutu, un autre élève du centre Nyota, vient d'une famille de plusieurs enfants. Sa mère vend un peu de farine au coin de leur avenue.
Papa, il nous avait abandonnés depuis l'année de 2013. Mais maman s'est concentrée pour moi et Lisa a aidé me payer l'argent pour les études. Nous sommes assis enfants. Mais c'est dès qui étudie chez nous, moi et ma grande sœur.
Fin de la récréation, c'est le retour en classe.
Tu répondis la phrase, le petit ami
si se cache sous son lit pour attenter d'échapper. Les colères du monstre Niragong.
Très bien. C'est pour tenter d'échapper à la colère du monstre Niragong.
Nous suivons là un cours de français dispensé aux élèves du niveau 3. À première vue, Nous remarquons que l'enseignante est une femme très très engagée dans la cause des enfants et adolescents vulnérables. Avec patience et méthode, elle encourage et arrive à faire assimiler facilement à ses élèves la leçon du jour. Madame Adriane Lumpala.
Qu'est-ce que sa mère avait fait pour sauver le petit Amis?
Dans des formations, on nous a montré des stratégies telles que la stratégie de montre-moi. Bien taper les pieds, taper les mains, bien j'ai des trous, j'ai des trous. Tout ça sont des stratégies que nous appliquons pour la compréhension de la matière au niveau de ces enfants. Et ces enfants se débrouillent beaucoup. Parce que d'abord, ce sont les enfants à problème. Mais si vous regardez leur façon d'apprendre, vous verrez que ce sont les enfants appliqués. Ça veut dire que ce sont les enfants qui ont beaucoup de problèmes quoi, de la vie. La vie n'est pas facile vraiment pour eux. Psychologiquement, nous essayons de les mettre dans leur B. Nous essayons avant de commencer à enseigner. Moi, j'ai ma stratégie. Je dois d'abord regarder leur figure. Je donne un peu d'exercice. Ça me permet de me renseigner à chaque enfant que les conditions de vie de chez eux. Moi, je connais peut-être les trois quarts de mes enfants. Je les connais déjà. Ces enfants, si vous les regardez vraiment, vous verrez que beaucoup d'eux viennent à l'école sans souliers. Et s'ils viennent avec des souliers, c'est quels souliers? Il y a les enfants qui viennent en babouche à l'école quand même. C'est pas bien. Concernant leur uniforme, vous verrez qu'il y a l'enfant qui a déjà l'habit à lambeau.
Malgré leur pauvreté, malgré leur uniforme sale, malgré leurs chaussures trouées, ces enfants sont heureux d'aller à l'école. C'est tout fier qu'Ndembi Bahati nous parle de ce dont ils bénéficient grâce à ce programme.
Ici, il y a une bonne enseignante et je l'aime beaucoup. Ils ont donné des stylos, des cahiers, il nous a donné des mallettes, il nous a payé l'argent de l'école. Même, il a donné une élève ici, il n'avait pas de parents, les maisons. Ils ont dit qu'il va lui donner tous les jours la nourriture pour qu'il soit en bonne santé. Et aussi, il nous a donné les habits, les chaussures.
Okay. Cela fait 4 ans que le Centre Nyota a inscrit le programme de rattrapage scolaire dans ses activités d'encadrement et de prise en charge des enfants et adolescents démunis. C'est depuis 2 ans qu'il est appuyé par l'USAID à travers l'URC. Il a reçu 15 300 dollars pendant les 2 années pour exécuter certaines activités de ce programme. La coordonnatrice du Centre Nyota, Madame Noëlla Kadahi, explique.
Il nous a appuyé par l'équipe scolaire. Les kits pour enseignants. Nous avons donné aussi les kits des élèves et on a renforcé aussi la prime d'encouragement des enseignants et la coordinatrice, le directeur, le comptable et la sentinelle. Grâce à l'appui OPEC que nous avons réussi à présenter les tenafaits. Mais les problèmes et la crainte que nous avons, nous sommes déjà à la fin du projet OPEC. Alors nous sommes en train de nous poser la question, quel sera l'avenir d'autres enfants qui sont au niveau 1 et niveau 2. Est-ce qu'ils arriveront aussi à présenter le TENAFEP? Nous demandons au gouvernement congolais de voir comment peuvent prendre en charge ne fût-ce que la motivation des enseignants qui encadrent ces enfants, qui forment ces enfants, et aussi voir comment diminuer aussi le coût des frais de TENAFEP. Par exemple, cette année, on nous a demandé 810 dollars pour le TENAFEP. Heureusement, c'est OPEC qui nous a payé ça. Nous lançons un cri au gouvernement congolais, aux personnes de bonne volonté, aux familles qui hébergent ces enfants, de leur donner la chance aussi d'étudier. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Madame Noëlla Kadahi a tout dit. Ces enfants ont aussi droit à l'éducation.
Après ce reportage réalisé par le réseau des radios et télévisions communautaires du Sud Kivu RATECO en collaboration avec l'organisation internationale Internews en RDC, la parole a été octroyée à Dr Diana Putman, directrice de l'USAID RDC. Elle a expliqué pourquoi l'USAID a tenu à financer ses programmes et le bien fondé de réinsérer dans le système scolaire des enfants et adolescents qui ont dépassé l'âge de fréquenter les cycles primaires.
Cet appui nous a beaucoup aidé à améliorer l'environnement scolaire parce qu'ensemble avec les comités des parents, nous sommes arrivés à regarder un peu les difficultés que nous avons. Et par cet appui, nous sommes arrivés à voir beaucoup de choses. Nos enseignants ont été donc motivés à partir de ce projet. Les élèves aussi étudient dans des conditions normales parce qu'auparavant, ils étaient chassés parce qu'il n'y avait pas de frais pour les parents avec des difficultés. Nous sommes arrivés à retenir les taux de rétention des enfants. Ils sont réguliers au cours. Avec des guides scolaires, les cahiers, tout consort, ces enfants aussi poursuivent convenablement et le taux est vraiment trop élevé pour ces enfants.
D'autres membres du panel se sont aussi adressés à l'Assemblée. Madame Petronille Pengela de la Division des Affaires Sociales a notamment insisté sur la collaboration qui existe entre sa division et l'IRC, organisation qui exécute ces programmes initiés par le gouvernement congolais et financés par l'USAID.
C'est en 2004 que ce programme a été initié au ministère des Affaires Sociales pour organiser les centres de rattrapage scolaire et de remise à niveau. Quand nous on organisait donc cette filière-là, on avait des difficultés parce que les enseignants, les éducateurs, comme étant en nouvelle unité, et ils ne donnaient pas cours convenablement parce qu'ils n'avaient pas les motivations. Ces enfants, ce sont des enfants qui sont plus vulnérables, qui n'ont pas la possibilité de payer les frais scolaires. Alors avec OPEC et IRC, quand ils nous ont parrainés, nous commençons à travailler avec eux depuis 2014. On nous a vraiment beaucoup aidés parce qu'on a formé d'abord les éducateurs. Chez nous, au lieu d'appeler les enseignants, on les appelle les éducateurs sociaux. OPEC nous a aidés à former ces enseignants, ces éducateurs, pour qu'ils soient en mesure de donner convenablement les cours là-bas.
En effet, pour renforcer l'appui des enseignants dans les CRS, l'IRC fournit dans le cadre de ce programme des formations des enseignants sur les méthodes et activités d'enseignement, la planification des leçons, la fabrication et l'utilisation de matériel didactique et l'implication des enseignants dans la tenue des réunions des forums d'échange pédagogique conformément aux instructions du ministère des tutelles. La participation active des inspecteurs itinérants dans le suivi et formation des enseignants a aussi encouragé les enseignants à adopter ces nouvelles approches dans l'enseignement. En plus, les gestionnaires des CRS, centres des rattrapages scolaires, et les agents de la division des affaires sociales ont reçu des formations sur la gestion comptable et financière, ainsi que le droit et devoir de chaque groupe dans le partenariat et la bonne gouvernance des CRS, a-t-on appris lors de cette conférence de presse. Toutes ces informations ont suscité l'intérêt des journalistes.
Je suis Jean Corneille Mouroula, de l'Association des femmes de médias, journaliste à Mama Radio. Avant de poser la question aux bénéficiaires, permettez, excellent, de vous poser aussi une question en rapport avec le programme qui est suivi par ces cours de rattrapage dans différents centres appuyés par les CRS. J'aimerais savoir, est-ce que la combinaison de ces années, qui serait de 6 ans en 3 ans, est-ce que ces écoles-là ou ces centres-là suivent normalement les programmes nationaux établis par l'État congolais? Et est-ce que le gouvernement ou l'État a un œil regardant pour savoir si ces programmes sont bien exécutés afin de produire un travail de qualité? Ma deuxième question maintenant, je l'adresse à Désiré Irengue. Quand je lisais les contextes, les papiers, donc les préambules ou les contextes de l'activité d'aujourd'hui, j'ai vu qu'il est passé par un centre et aujourd'hui il serait étudiant en G2 à l'IEB. Je ne sais pas, Monsieur Irengue, comment vous êtes rattrapé pour parvenir à affronter la vie étudiantine. Est-ce que vous avez eu de difficultés que vous pouvez partager avec nous pour savoir un peu ou jauger un peu les degrés d'efficacité de ces rattrapages? Merci.
Merci pour la question. Je veux dire que l'État congolais voudrait que tous les enfants aillent à l'école. Filles et mères, retardés en âge, tous doivent étudier. Donc, un enfant qui a eu des difficultés, ou un enfant dont les parents ont eu des difficultés, ou un enfant dont la conjoncture politique, économique a créé des difficultés, a droit d'aller à l'école. Et compte tenu de son âge avancé, ces enfants assimile facilement les programmes de 2 ans en une année. Parce qu'au finish, quel est l'objectif de l'enseignement primaire? C'est lire, écrire, compter et calculer. Lire, écrire, parler, compter et calculer. Et quand quelqu'un a dépassé 6 ans, il peut facilement acquérir ses compétences de vie courante compte tenu des avantages qu'offre son âge. Nous suivons, vous avez suivi qu'il y a ceux qui font déjà l'université, c'est qu'il y a eu un suivi. Les programmes sont suivis. Et pour réussir au TENAFEP, Madame Diana vous a communiqué le taux de réussite au TENAFEP, qui dépasse les 90% pour les uns et les 80% pour les autres. C'est-à-dire donc qu'à travers cet indicateur-là, nous nous rendons compte que les programmes sont suivis. Et nos inspecteurs font l'itinérance et s'occupent de l'encadrement des éducateurs sociaux et de ses élèves pour assurer au gouvernement que le programme n'est pas mis au frigo. Voilà ma réponse à la question que vous avez attendue de l'État par rapport au suivi des CRS. C'est une opportunité de permettre aux enfants de suivre les enseignements, quel que soit leur âge.
De ma part, vraiment, je n'ai pas trouvé assez de difficultés. Rien qu'il y avait des complexes. Surtout d'infériorité de ma part en entrant en première année et secondaire ou des cycles d'orientation, mais j'avais au moins toutes les matières en tête, j'étais bien préparé au centre de rattrapage scolaire, et voilà, lorsque je me suis retrouvé en première CO, je me suis rendu compte que c'est la même matière que je suis en train de recevoir et je suis en train de répondre tout comme les autres qui ont terminé dans des écoles formelles. Et voilà, c'est un peu ça par rapport aux difficultés affrontées dans la vie étudiantine. Donc, il n'y en a pas assez. C'est un peu ça, c'est rien que le complexe d'infériorité. Et après un mois, la première période est finie. Je me suis retrouvé au même pied d'égalité que les autres élèves.
Merci beaucoup, Désiré. Nous comprenons que vous avez eu des difficultés d'intégration au début, mais par la suite, vous avez pris la vitesse de croisière et vous avez rejoint les autres dans l'apprentissage normal. Autre question.
Moi, c'est Madame Ephrasie Mukelo, journaliste à la RTNC. Par rapport à ces enfants qui vivent, donc je pose la question, je crois, au ministre. Par rapport à ces enfants qui vivent dans des conditions difficiles et qui vivent dans des coins très reculés dans nos milieux ruraux, donc dans nos territoires, où on enregistre encore des guerres, quelles sont les stratégies qui sont déjà prises pour que ces enfants bénéficient aussi de ces projets?
Nous allons recevoir toutes les questions, comme ça on répondra une seule fois.
Merci. Mon nom c'est Sif Wissa, pour le compte du journal Le Point Capital. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. La constitution de la RDC, promulguée le 18 février 2006, stipule que l'enseignement primaire est gratuit en RDC. Si déjà ces enfants ont des difficultés, je venais de suivre que les frais de participation au TENAFEP, d'après le directeur provincial de l'éducation, les frais de participation sont fixés à 9 dollars. Si ces enfants ont déjà des difficultés, ils ont des difficultés financières, comment voulez-vous qu'ils payent ces frais fixés à 9 dollars alors qu'ils n'ont pas de moyens? Monsieur le ministre, est-ce que l'enseignement gratuit sera-t-il resté une lettre morte ou il y aura un jour une matérialisation? Merci.
C'est dommage que maintenant c'est moi qui deviens la cible alors qu'on devait écouter les enfants. Donc je vais demander à ce que l'on puisse mettre cette occasion à profit pour écouter beaucoup plus les enfants que moi. Mais quand cela les tienne, je vais vous assurer que la gratuité de l'enseignement est un processus. Et ce processus est en cours. Il est en cours dans la mesure où il y a des frais illégaux interdits. Il y a des frais illégaux interdits et il y a des sanctions prévues pour ceux qui font payer les frais illégaux. Mais pour ce qui est des frais de participation, je dois vous dire que tous ceux qui font les rattrapages scolaires ne sont pas indigents. Et pour les indigents, j'inviterai les organisateurs de ces centres de contacter la division des affaires sociales pour l'attestation d'indigence ou de vulnérabilité. Ce document leur donne accès à la gratuité des différents frais. Mais pour ce qui est de l'organisation et du fonctionnement, on essaye dans la mesure du possible de tout mettre en œuvre pour rendre l'enseignement accessible à tout le monde. Madame Ephrasie Mukelo a voulu savoir quelle stratégie pour les enfants des territoires éloignés. C'est ce que j'ai retenu. Les CRS sont partout. Ce n'est pas seulement à Bukavu, il y en a aussi à l'intérieur. C'est dommage que je n'ai pas les statistiques en tête pour chaque territoire, mais les CRS fonctionnent partout. Et à côté des CRS, l'État voudrait institutionnaliser la classe initiale de manière à permettre à tous les enfants de fréquenter la classe zéro et d'étudier comme il faut. Donc, parmi les frais, je reviens à la préoccupation du dernier intervenant, il y a des frais qui sont gratuits aujourd'hui, par exemple les Minerval, c'est l'État qui prend en charge. Les frais d'assurance scolaire, ils sont pris en charge par le gouvernement. Il y a les bulletins scolaires, ils sont pris en charge par le gouvernement provincial. Et les frais d'intervention ponctuelle, ça ce sont des frais déjà pris en charge par le gouvernement au moment où nous parlons. Et comme j'ai dit que c'est un processus, au fur et à mesure qu'on se heurte à de nouvelles difficultés, comme ce sont les faits qui précèdent le droit, on va essayer de les examiner au cas par cas pour voir dans quelle mesure donner à tous ces enfants la chance d'aller à l'école. Donc je disais à Mme Ephrasie que les CRS sont partout. Et en plus des CRS, il y a des classes initiales et des classes que nous appelons les classes maternelles qui vont permettre au ministère de récupérer tous les enfants. Pour cette année, par exemple, nous allons mener une campagne d'inscription de manière à récupérer 40 000 enfants à la rentrée scolaire de septembre. C'est-à-dire donc que parmi ces enfants, il y a ceux qui suivent les cursus normales et il y a ceux qui sont en difficulté. Et ceux-là qui sont en difficulté, ils sont couverts par la loi, ils sont couverts par les textes et nous essayerons, avec le concours des affaires sociales, qui est aussi dans mes portefeuilles, de voir dans quelle mesure on peut alléger, si pas supprimer totalement la charge, pour ceux-là qui se retrouvent en situation d'indigence complète. La presse, je vous reconfie le micro, mais je vous demande de faire parler les enfants aussi.
C'est ça, s'il vous plaît, Son Excellence, c'est ça la question. Nous voulions beaucoup plus avoir l'expérience et les défis que nos bénéficiaires ont reçus. Le temps des questions est passé parce qu'on doit s'arrêter à 17h. Donc, on s'excuse. Vous aurez l'occasion de les voir dans d'autres circonstances, peut-être de leur poser des questions. Je commence peut-être par les parents.
Merci pour la parole. Je m'appelle Fidel Titera. Je suis parent d'un élève bénéficiaire au CRS Nyota et je suis le président du comité de parents. Pour nous, le parent, nous nous trouvons devant une situation vraiment qu'avec des guerres à répétition, il y a eu interruption des enfants à l'école. Et quand il y a eu interruption, il y a eu dépassement de l'âge. Et quand il y a eu dépassement de l'âge, on ne savait plus parce que les enfants ne pourraient plus être inscrits à l'école. Alors, il y a eu création des CRS, les enfants sont partis au CRS. Maintenant, ils continuent à étudier. C'est un soulagement. C'est un soulagement parce qu'ils ont retrouvé l'espoir. Ils avaient perdu l'espoir, mais ils ont trouvé l'espoir. Et quand ils ont trouvé l'espoir d'espérer avoir un titre au moins, et un titre pour continuer les études à la fin, peut-être. Parce que nous nous retrouvons souvent, quand il y a un délaissement, il y a un défoulement, et c'est là qu'on assiste à des grossesses précoces, parce qu'il n'y a plus les enfants qui vont à l'école. Mais maintenant, avec l'appui de l'ISAID, nos CRS, avec l'intervention de l'IRC, les comités de parents avec les CRS établissent les priorités de l'école. Parce que sans la gestion collégiale, sans le contrôle des parents, même les CRS ne pouvaient plus... continuer à exister. Il fallait qu'il y ait les parents là-bas pour voir exactement ce qui se font là-bas. Parce que les parents, on peut dire, même s'ils ne contribuent pas efficacement, mais le peu qui est là, le peu qu'on donne, il faut savoir comment est géré. À ce moment-là, il y a des priorités. Et quand l'ISAID donne des fonds, on essaie un peu de résoudre ces fonds partant des priorités de l'école. Si c'est pour les priorités de l'école, ça va. Mais il y a le défi. Il y a le défi toujours à relever. Parce que le nombre continue à augmenter de nos enfants. Ça continue à augmenter dans la ville de Bukavu. Il faut circuler peut-être sur la rite. Vous allez voir les Chegué et les autres. Ça continue. Et tous ces enfants, ce sont des enfants qui sont en rupture scolaire. Mais maintenant, on se pose la question, si nous n'avons plus l'argent, si les partenaires ne donnent plus l'argent, il y aura toujours des problèmes. C'est pas alors.
Merci beaucoup. Il y a Hortense qui voudrait parler aussi.
Oui,
ok, ça va. Dernière intervenante.
La voix d'une enseignante qui encadre nos enfants.
Merci de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est Hortense Basseme. Je suis enseignante au Centre Annonciata au niveau 3. Avec l'appui de notre projet, nous avions déjà réussi beaucoup de formations de recyclage, vraiment. Parce qu'auparavant, nous enseignions, nous n'avions pas quand même des méthodologies d'enseignement et des stratégies. Mais avec l'appui du projet, avec des recyclages, nous y accueillons de différents thèmes, de différentes stratégies et surtout des méthodologies. Comment vivre avec les enfants, leurs droits, et comment les encadrer dans leur vie quotidienne. En tout cas, avec cet appui là-bas, il y a aussi la motivation. Auparavant, on y allait vraiment pas assez de courage. Mais avec le paix qu'ils nous donnent, nous nous sentons quand même fiers. Les enfants suivent les matières vraiment et ils parviennent à se retrouver dans leur vie future.
Merci beaucoup, Madame Basséme Hortense. Tel que vous l'avez remarqué, la scolarisation de ces enfants est effective grâce au concours des acteurs locaux et avec l'appui de l'USAID. Nous avons fait intervenir juste un échantillon et l'autre que vous avez suivi par la voix audio, c'est un reportage qui a été produit pour nous, toujours comme échantillon par les réseaux des radios et télévisions communautaires du Sud Kivu Rateko en collaboration avec l'organisation internationale Internews. Nous arrivons à la fin de notre activité d'aujourd'hui. Nous vous disons tous merci et nous invitons le ministre du Plan de prononcer les mots de clôture au nom du gouverneur empêché.
Je remercie tous les participants. Je félicite les enfants qui ont pu témoigner devant un si grand auditoire comme celui-ci. Ils ont parlé devant la presse, devant les autorités, comme l'a si bien dit notre chère demoiselle. Et je félicite également vraiment tous les bailleurs de fonds, notamment l'USAID, qui s'est donné la peine de venir. Et je félicite mes collègues ministres qui se sont donnés aussi, qui sont restés tout l'après-midi devant vous et qui ont pu écouter tous ces témoignages. Je félicite les enseignants, vraiment, vous avez bien parlé. Et je sais combien sont difficiles les conditions dans lesquelles vous travaillez, mais nous devons ensemble, travailler pour que ce qui reste comme défi puisse s'améliorer. Et donc, c'est avec ces mots que je déclare donc clos notre atelier de ce jour. Je remercie tout le monde. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la coopération de notre pays, la République démocratique du Congo et les États-Unis. Que vive l'USAID. Et que vive l'enseignement aussi. Merci.
Voilà, c'est la fin de ces magazines. Et vous l'avez compris, les centres de rattrapage scolaire offrent un environnement sain et sans violence, diminuent le taux d'abandon des filles en augmentant leur transition de l'école primaire à l'école secondaire et encouragent l'implication des enseignants et des comités des parents dans le suivi et la gestion scolaire. Au Sud Kivu plus particulièrement, les comités des parents ont exécuté les plans d'amélioration de l'environnement scolaire et cela a aidé les membres de la communauté à reconnaître leur rôle et responsabilité dans le soutien aux écoles de leurs enfants ainsi que leur confiance dans le suivi des activités du centre et s'assurer que leur appui est correctement utilisé. C'est sur ce mot que nous mettons un point final à ce compte-rendu de la conférence de presse organisée par l'IRC sur le programme des rattrapages scolaires qu'il exécute au Sud Kivu. C'était le 18 mai dernier à Bukavu. Merci de nous avoir suivis.